Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Dilexit Nos, c'est le titre de la quatrième encyclique du pape François, publiée le 24 octobre, sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Sur quoi, sur qui le Saint-Père veut-il attirer notre attention et faire croître ainsi notre foi ? Il nous a aimés. C'est par ces mots que commence la toute dernière encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur de Jésus. Nous en parlons aujourd'hui avec le père Pascal Fanier, prêtre de la communauté de l'Emmanuel et vicaire à l'ensemble paroissial Aucamville, Saint-Loup-Camas. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
À vos côtés, François de Saint-Blanca, membre de la communauté de l'Emmanuel. Les auditeurs vous connaissent parce que vous êtes intervenu souvent à cette antenne à propos de la doctrine sociale de l'Église et ses applications. Patrick, bonjour monsieur.
Bonjour madame. Ils me connaissent oui. Les plus anciens, oui.
Ils connaissent votre voix, en tout cas. Voilà. Alors peut-être avant de nous plonger dans le cœur de l'encyclique, j'aimerais bien vous demander quelle impression vous a laissé la lecture de Dilexit Nos. Il nous a aimés. François de Saint-Blanca.
Ça m'a fait une grosse impression parce que j'ai vu à la fois, j'ai cru lire du français directement traduit de l'espagnol. J'ai retrouvé ce côté jésuite. Vous savez que la spiritualité du Sacré-Cœur a été confiée à Marguerite Marie, qui là elle-même a été accompagnée par le père Claude de la Colombière et qui l'a diffusée dans le monde entier, si bien qu'on voit dans le monde entier, vous allez dans Chine et vous allez au Chili, vous trouvez des icônes du Sacré-Cœur un peu partout, avec ces espèces de au-dessus des linteaux des portes, vous avez un Sacré-Cœur qui en général peut être en terre cuite ou en terre vernie, rouge, noir, vert. Donc j'ai trouvé cette universalité de cette dévotion qui n'est, je le rappelle, qu'une dévotion, c'est-à-dire qui est une incitation à être proche de l'Évangile.
Et vous, père Pascal, votre impression à la lecture de cette encyclique ?
J'étais enthousiasmé. Je l'appelle la gelée royale des encycliques, tellement tout est essentiel, tout est superlatif. Le pape fait des affirmations, par exemple, au numéro 83, quand il dit « Le Sacré-Cœur est une synthèse de l'Évangile ». C'est genre, en quelques mots, il nous dit des choses très fortes. Ou quand il nous dit que la prière que Jésus lui-même apprend à Sainte Faustine, « J'ai confiance en toi », ça c'est au numéro 90, il dit, le pape dit, « Aucune autre parole n'est nécessaire ». Donc vous voyez, c'est ces genres d'affirmations qui sont quand même
assez fortes.
C'est puissant, ouais. C'est vraiment une encyclique réjouissante, et puis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de citations de saints, et parmi ces saints, beaucoup de citations des saints français, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Marguerite Marie, bien sûr, Saint Claude la Colombière, Sainte Thérèse de Lisieux, qui ça revient très souvent, Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul, Saint Charles de Foucault. C'est très impressionnant le nombre de citations. Parfois, on reproche au pape François de délaisser un peu
la France,
mais là, on peut dire qu'il ne la boude pas.
Voilà, c'est une consolation. Alors, on va commencer par ce premier chapitre sur l'importance du cœur. Le Saint-Père affirme que la société actuelle est en train de perdre son cœur. On connaît ces formules choc. Qu'est-ce qu'on doit finalement redécouvrir à propos du cœur ?
Écoutez, moi je pense que c'est très touchant qu'ils prennent la question comme ça, parce qu'ils parlent du cœur en disant que le cœur est mu par une émotion. C'est-à-dire que sans émotion, le cœur n'agit pas. Et je me dis, mais alors cette émotion, elle vient d'où ? Elle vient de qui ? Vous voyez, je vois dans cette façon de prendre les choses, cette nature selon laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire pour aimer en réalité, pour être aimé et pour aimer. Ça, c'est la chose qui m'a le plus touché parce que c'est au fond vrai. Et alors maintenant, on se retrouve devant un paradoxe qui est d'une part, ce cœur qui semble ou qui est mu par Dieu, mu au sens de mouvoir, et ce cœur en même temps qui refuse dans notre société actuelle, qui refuse Dieu tout en étant l'épiderme qu'on fait jouer dans les questions d'amour humain. Donc il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire d'un étirement entre ces deux notions, du cœur dans son côté profond et divin et du cœur dans son côté uniquement humain.
Oui, je dirais en t'écoutant, François, que on est dans un monde qui est dominé par l'émotion.
Ah oui, complètement.
Et on le voit à travers les médias. Même il y a des lois qui sont votées sous le coup de l'émotion.
Complètement.
Et ce n'est pas très juste. Mais le pape François vient, on pourrait dire, sauver l'émotion, au sens où le fait d'être mu peut être aussi une inspiration, sous une inspiration de l'Esprit Saint. Et par exemple, il va montrer que le Christ lui-même, en tant qu'homme, a été mu, a connu des émotions, il y revient plusieurs fois, et que à travers les émotions tout à fait humaines du Christ, il y a aussi le fait que l'Esprit Saint, par exemple, l'Esprit Saint pousse Jésus au désert, nous dit. Donc le début de la, ou le préambule à la vie publique du Christ, c'est-à-dire le moment où il va quitter Nazareth, son métier de charpentier, puisqu'il est charpentier, et avant d'entrer dans la vie publique, il est poussé par l'esprit au désert. Donc, il y a un côté
pour
passif.
Pour un cœur à cœur, justement.
Voilà, et pour un cœur à cœur, tout à fait.
Oui. Saint Jean-Paul II disait, « L'homme de l'an 2000 a besoin du cœur du Christ pour connaître Dieu et se connaître lui-même pour construire la civilisation de l'amour. » Ça, on connaît bien cette formule.
Et d'ailleurs, vous parlez de Jean-Paul II, et c'est vrai que le pape François, dans cette encyclique, cite, mais alors en abondance, tous les papes depuis Léon XIII, c'est-à-dire depuis le XIXe siècle. Tous les papes qui se sont succédés, Jean-Paul II abondamment, Benoît XVI, Pie XI, peut-être un peu moins Pie X d'ailleurs, mais il cite vraiment, c'est très impressionnant. Et c'est vrai que Jean-Paul II a des phrases là aussi sur le... Et Pie XII qui a fait une encyclique beaucoup plus courte sur le Sacré-Cœur en 1947, je crois, que cite aussi beaucoup le pape François. Je vous cite le numéro 6, son tout début. Vous savez, les encycliques, c'est pas tellement des chapitres. Pour se retrouver dans une encyclique, c'est tout simplement des paragraphes avec des numéros.
Avec des numéros.
Donc c'est très pratique, ça c'est un système très pratique. Il parle du cœur en général, donc pas seulement du cœur de Jésus. Numéro 6, tout se joue dans le cœur, on y est soi-même, quel que soit ce que l'on montre extérieurement et ce que l'on cache. Le cœur est la base de tout projet solide pour la vie, car rien de valable ne se construit sans le cœur. L'apparence et le mensonge n'offrent que du vide. Et il va parler du cœur tout en le mettant un peu parfois en opposition, mais aussi en relation avec ce qui intéresse beaucoup les intellectuels, notamment les théologiens,
la raison,
la volonté, la liberté. La liberté, ça touche beaucoup les Français, on l'a sur le frontispice de nos mairies. Mais il dit attention. La raison, la volonté ou la liberté sans le cœur, c'est froid, c'est sec, et puis ça peut partir même dans des délires. Oui, en fait.
Ça me fait penser à ce que nous rappelle le catéchisme, c'est-à-dire que la liberté n'est pas faite pour faire ce qu'on veut quand on veut. La liberté, elle a un seul objectif. Nous chrétiens, nous devons avoir un seul objectif, c'est celle du bien. Et à ce titre-là, je peux rappeler... ce qui m'avait beaucoup impressionné, dans les années 1800, je ne sais plus combien, le président de la République équatorien, qui s'appelait Moreno, disait « Pour moi, la liberté, c'est le pouvoir de faire le bien, mais de faire ou laisser faire le mal, jamais. » Il a été assassiné quelques jours après.
Il avait consacré son pays au Sacré-Cœur.
Il a consacré même constitutionnellement son pays au Sacré-Cœur. Et quelques jours après... Il a été assassiné par une personne qui lui a dit « Meurs, chien de chrétien ».
Ah ben voilà. Allez, on avance. Le deuxième chapitre, le pape François développe les gestes et les paroles d'amour qui disent comment Dieu nous aime. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces gestes, le regard, les paroles de Jésus, père Pascal ?
Alors, le pape François nous dit justement que le Christ n'a pas voulu nous expliquer son amour, mais il l'a manifesté d'abord.
Oui.
C'est-à-dire, il montre les choses, ensuite à nous d'essayer de les comprendre, ça c'est au numéro 33, et il dit tout simplement son prénom déjà, Emmanuel, nous dit tout son programme, on va dire cordial, ça veut dire Dieu avec nous, Dieu proche de nos vies, vivant parmi nous, et saint Paul dans les Philippiens va dire, il s'est même anéanti jusqu'à prendre la condition d'esclave, quoi. C'est-à-dire cette proximité à nous jusque dans la mort, quoi. Dans la souffrance et dans la mort. Et donc, après tous les gestes de tendresse qui sont évoqués, pense au numéro 37 de l'encyclique, Jésus murmure à l'oreille, « Aie confiance, mon enfant », c'est dans l'évangile selon saint Matthieu, « Aie confiance, ma fille ». Ou quand Jésus regarde, est-ce que c'est le jeune homme riche, et il fixa son regard sur lui et il l'aima. Donc un regard qui n'est pas un regard voyeur, observateur, jugeur,
et qui juge, oui.
qui est souvent notre regard, il faut le reconnaître. Oui, hein, nous toisons, comme on dit. Hein, on se mesure, on se scanne.
On se scanne,
nous avons un regard qui scanne. Lui, il regarde, il le fixe et il nous aime. Enfin, il me fixe finalement et il nous aime. Et puis le pape parle des sentiments de Jésus, hein, qui pleure sur Jérusalem, qui pleure pour son
ami Lazare,
qui est saisi aux tripes, peut-être François, là, l'expression quand on nous dit que...
Compassion.
Oui, de la compassion de Jésus. Mmh. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire?
Ben oui, là, c'est compassion, tout le monde sait que c'est souffrir avec. Mmh. Mais dans compassion, ça vient du latin, hein, cum patior. Patior est un passif, c'est-à-dire on sent une souffrance qui nous est étrangère, qui nous pousse à. Et alors si on parle des gestes, puisque c'était votre question, dans l'évangile, le Christ touche les oreilles, touche la langue, touche la personne. Il aurait très bien pu ne pas le faire.
Et il se laisse toucher aussi.
Et il se laisse toucher. Parfois. Et ça, nous le retrouvons, par exemple, lorsque vous allez au chevet d'un malade, que vous ne pourrez rien lui dire, vous lui prenez la main, ça lui suffit. Oui. Et surtout, il ne faut pas parler à ce moment-là, mais on le sent comme on sent une odeur, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose de très physique. Le regard, c'est autre chose. Le regard, vous avez des regards qui sourient, comme dans vos journalistes, si vous ne souriez pas. Au micro, ça s'entend. Ou quand vous souriez, plutôt, ça s'entend. Mais la même chose, le geste, le regard, c'est celui qui rassure. Et si on n'est pas rassuré par un regard, on n'y va pas. C'est comme le sourire. Si vous ne souriez pas à quelqu'un, vous n'allez pas l'engager à avoir une relation
avec lui. Oui, c'est communicatif.
Oui. Les paroles d'amour, c'est quand vous dites à quelqu'un « je vous aime », ce que dit le Christ... aujourd'hui, ça ferait peut-être un peu reculer d'un premier coup. Donc, peut-être qu'il ne faut pas commencer par ça, mais avoir un regard et un sourire.
Mmh. Et le pape François, par exemple, souligne justement le fait que Jésus se laisse toucher. Non seulement il touche, hein, on pense par exemple à saint Marc, qui est le seul des évangélistes à nous préciser qu'il bénit les enfants. Ça, tous les évangiles le disent, mais lui, il les embrasse. Il embrasse et bénit les enfants, ce qui est l'attitude la plus normale qui soit. Alors le Covid nous a fait un peu perdre le contact, plus les scandales, il faut reconnaître. Mais il n'y a rien de plus naturel que de s'embrasser avec les gens que l'on aime. Là. Et qu'il se laisse toucher aussi, à la fin de, tout dans la deuxième partie, le pape François nous dit, il se laisse toucher par la femme en pleurs, qui le baigne avec ses pleurs,
jusqu'à la frange du manteau.
La frange du manteau aussi, pour la femme hébroïse.
Oui. Oui. Le Christ dit à Sainte Marguerite Marie à la Coque à Paray-le-Monial, donc c'était en juin 1675, lors de la troisième apparition, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Adorer le cœur de Jésus, qu'est-ce que ça signifie?
Alors, adorer le cœur de Jésus, ça signifie d'abord une relation de prière ou de proximité qu'on a décidé d'avoir. Parce qu'on ne peut pas adorer si on ne considère pas la personne que l'on a adorée. Bon, pour la considérer, ben, il faut faire un petit effort et se demander, au fond, pourquoi suis-je fait? Où vais-je? D'où viens-je? Et donc avoir un geste de foi, parce qu'adorer, c'est d'abord un geste de foi. On ne peut pas adorer si on n'a pas la foi. Mais par contre, dès que, sans être un grand adorateur, on prend du temps, on passe un peu de temps, ne serait-ce qu'en se posant la question de Dieu, déjà on sent une paix qui vient dans nos cœurs et qui nous aide à persévérer. Mais il faut bien se dire que la prière est une question de décision. Hein. Donc on adore parce qu'on a décidé que peut-être, pour ceux qui sont les plus réticents, comme j'ai pu l'être autrefois, peut-être que Dieu existe et alors donnons-lui un petit peu de temps.
Mmh. Père Pascal.
Et alors l'adoration au cœur de Jésus, la relation au cœur de Jésus, c'est il y a quelque chose de charnel qui est tellement bien exprimé par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que cite donc abondamment et plusieurs fois en plusieurs endroits. Vous voyez, il n'y a pas seulement un passage pour Sainte Thérèse de Lisieux et on passe à autre chose. Non, il revient. Et il cite toute une prière, un poème. Vous savez que c'était une artiste. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église a déclaré qu'elle était docteur de l'Église. Autrement dit, que ce qu'elle exprime est d'une valeur théologique, quoi. Ça, Thérèse de Lisieux peut servir de base aux enseignements de la catho de Toulouse ou d'ailleurs, vous voyez. C'est ça que ça veut dire, oui. Docteur en théo, oui, docteur sûr. De l'Église. Et alors voilà, il cite, c'est au numéro 135, c'est Thérèse, hein. « J'ai besoin d'un cœur brûlant de tendresse, restant mon appui sans aucun retour, aimant tout en moi, même ma faiblesse, ne me quittant pas la nuit et le jour. Il me faut un Dieu prenant ma nature, devenant mon frère et pouvant souffrir. » Et on pourrait continuer, hein. Mm-hmm. On n'a pas le temps, mais lisons l'encyclique si on le peut. Hein. Et c'est, je crois que c'est le but de notre rencontre, c'est qu'on pourra jamais tout dire.
Eh oui, bien sûr. Et puis dans ce paragraphe sur effectivement ces apparitions à Sainte Marguerite Marie à la Coque, le pape François montre bien qu'on adore Jésus tout entier, son amour divin et humain, et que dans cet amour, il y a la présence de Dieu et la présence de l'Esprit Saint. C'est Dieu Trinité.
Bien sûr. Parce qu'il dit par exemple au paragraphe 30, tout acte d'amour ou d'adoration envers son cœur s'adresse en réalité au Christ lui-même. Ça, c'est quelque chose de très mystérieux. C'est-à-dire qu'en adorant Dieu, on ne peut pas ne pas penser à autrui. Tu aimeras Dieu et le prochain comme toi-même. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de communication très mystérieuse entre le fait d'adorer Dieu et le fait d'être secourable aux autres. Le fondateur de notre communauté disait, Pierre Goursat, tu n'as pas la foi, occupe-toi des pauvres. Et c'est très mystérieux parce que quand vous vous occupez des pauvres, vous sentez que vous êtes dans vos baskets, comme disent les jeunes aujourd'hui. Vous êtes en équilibre.
À votre place.
Vous êtes à votre place. Vous dites, je fais quelque chose. Même si c'est minuscule, et c'est minuscule la plupart du temps, vous faites quelque chose vraiment. Et donc c'est là qu'il y a une communication entre aimer Dieu, aimer les hommes. Aimer les hommes, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer les hommes. Mais l'un ne va pas sans l'autre.
Oui, bien sûr.
Et je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les pauvres. On retrouve le pape François, non seulement jésuite, et forcément, un jésuite c'est forcément intellectuel, hein, c'est une de leurs vocations, comme les dominicains, ce sont des enseignants, ils ont beaucoup
des
à
prêcheurs.
Nous apprendre, voilà, ce sont des organisateurs, ce sont des gens rationnels, hein, un jésuite est rationnel, un dominicain est rationnel, mais il a été curé de paroisse, et c'est, je pense, depuis le pape Pie X, donc depuis 120 ans, c'est le premier pape qui a été curé de paroisse. Pie XI l'a été, mais il était déjà dans les hautes sphères de son diocèse. Donc, disons que c'est le premier pape. Ça rejoint ce que tu dis sur les odeurs. D'ailleurs, lui-même, il évoque le fait que le pasteur, il sent les odeurs de ce brebis. Et donc, on sent une relation, une expérience de la relation concrète avec les personnes, et notamment avec les pauvres. Et dans la deuxième partie, qui parle de la réparation...
Il
y a cet amour des pauvres et cette relation concrète, et il va nous dire que justement, le cœur permet une relation véritable. L'intelligence permet, comme on l'a dit, hein, de scanner, de mesurer, de réfléchir, de penser, d'organiser, et c'est nécessaire. Mais moi qui ai fait énormément d'études, j'ai fait 15 ans d'études après le bac, hein, c'est énorme,
c'est long.
J'ai été assidu en plus. Mais par exemple, heureusement, pendant mes études à Rome, je servais la soupe populaire, là, on avait 1500 repas par jour dans une paroisse de Rome. Le contact, et j'étais assistant d'un médecin qui est devenu prêtre, qui accueillait des SDF et qui les soignait. Et le contact physique avec ces personnes, et notamment les femmes SDF, il y en a un peu moins que d'hommes, mais il y avait une relation effectivement de cœur à cœur, une relation charnelle qui nous enseignait, enfin qui moi m'a enseigné, ou quand je participe avec l'association Magdalena, on va rencontrer des prostituées là. Dans Toulouse, eh bien, donc c'est des femmes et puis quelques hommes aussi, eh bien, il y a un enseignement qui nous vient de la relation concrète, on va dire, de cœur à cœur avec ces personnes. Ces personnes nous enseignent.
Oui.
Hein?
Oui.
Nous, on essaye de leur apporter une présence, mais elles nous enseignent. Et ça, le pape est très sensible à cela. Il dit que le cœur, c'est le lieu de la relation, non seulement à Dieu,
rencontre.
Le Sacré-Cœur, le lieu de la rencontre, mais avec nos frères, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. On ne peut pas séparer la relation à Dieu, même d'ailleurs Saint Jean le dit. Hein, il a une phrase qui vraiment est définitive. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son prochain qu'il voit, est un menteur.
Alors ce côté éducatif que les pauvres nous donnent, moi je le trouve absolument extraordinaire parce qu'il m'a toujours très impressionné. Et j'ai un exemple d'il y a 30 ans, j'étais visiteur à Muret, dans la prison de Muret, et on m'avait confié Dédé. Dédé, il avait égorgé son père et sa mère. J'avais vu le dossier pénal, ce que j'aurais pas dû voir.
L'assistante
sociale,
on le sait pas.
L'assistante sociale me l'a fait voir. Donc je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis mis ? Je m'attendais à voir une sorte de patibulaire costaud, etc. Je suis tombé sur un jeune homme, blondinet, pas très grand. Vous leur auriez donné le bon Dieu sans confession. Et vous savez, les détenus, ils parlent très difficilement de leur expérience, mais parfois ça arrive. Et Dédé, il s'est ouvert à moi. Il m'a raconté cette histoire, son histoire. Et je suis sorti de là en me disant, si j'avais été à sa place, j'en aurais peut-être pas égorgé deux, mais quatre. Oui. Vous voyez, c'est là que le pauvre m'a enseigné. Il m'a dit, le type qui est en face de moi, quoi qu'il ait fait, sa dignité ne peut être rejetée. Et c'est ce que nous disait Jean-Paul II quand il était allé dans des prisons en France au cours d'une visite. Votre dignité, personne ne peut jamais vous l'enlever.
Oui. Alors le pape François donne beaucoup de citations de ce que disent les Écritures sur le cœur de Jésus. Et comme vous le disiez, Père Pascal, il cite aussi beaucoup de citations de ce que les saints ont dit du cœur de Jésus. Saint Augustin, Saint Bernard, Saint Bonaventure, Saint Gestrine, Sainte Mechtilde, Sainte Catherine de Sienne et j'en passe, Saint Jean-Eudes, Saint François de Sales. Et vous parliez effectivement de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Je vous propose qu'on fasse déjà une petite pause musicale et puis nous nous retrouvons après pour parler justement du côté de la blessure du cœur de Jésus et puis de la réparation.
Entendu, seul ami que j'aime, pour ravir mon cœur te faisant mortel. Tu versas ton sang, mystère suprême, et tu vis encore pour moi sur l'autel. Si je ne puis voir l'éclat de ta face, entendre ta voix remplie de douceur, je puis, ô mon Dieu, vivre de ta grâce, je puis reposer sur ton sacré cœur. Au cœur de Jésus, trésor de tendresse, c'est toi mon bonheur, mon unique espoir. Toi qui sus charmer ma tendre jeunesse, reste auprès de moi jusqu'au dernier soir. Seigneur, à toi seul j'ai donné ma vie et tous mes désirs te sont bien connus. C'est en ta bonté toujours infinie je veux me perdre au cœur de Jésus. Afin de pouvoir contempler ta gloire, il faut, je le sais, passer par le feu. Je choisis pour mon purgatoire ton amour brûlant au cœur de mon Dieu. Mon âme exilée quittant cette vie voudrait faire un acte de pur amour et puis s'envolant au ciel, sa patrie, entrer dans ton cœur sans aucun.
Présence. Église, Isabelle Duché.
Au Sacré-Cœur de Jésus, interprété par Mathilde Lemaire d'après un poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que oui, nous parlons du Sacré-Cœur de Jésus avec la dernière encyclique du pape François, Dilexit Nos. Elle porte sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Nous la découvrons aujourd'hui, pas à pas, avec le père Pascal Fanier, prêtre de la communauté de l'Emmanuel et vicaire à l'ensemble paroissial Aucamville-Saint-Lucamas, et François de Saint-Blanca, membre de cette même communauté. On va refaire un tout petit retour en arrière, parce que c'était trop rapide. Alors d'abord un petit retour en arrière historique, un petit clin d'œil sur le lien entre le Sacré-Cœur et notre région, François de Saint-Blanca.
Oui, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, ça m'a beaucoup plu, et en tant que Toulousain et très chauvin, il faut que je vous lise ça. J'ai trouvé là, donc sur Wikipédia, la chose suivante. La France a été consacrée le 29 juin 1873 par un groupe d'une cinquantaine de parlementaires lors d'un pèlerinage à Paray-le-Monial, conduite par le député toulousain Gabriel de Belcastel. Je trouve que c'est succulent.
Oui, c'est succulent. Allez, on s'en réjouit. Et alors, Père Pascal, peut-être quelques mots sur cette dévotion au Sacré-Cœur. Alors, vous disiez, évidemment, le pape la publie parce que c'est le 350e anniversaire des apparitions à Sainte Marguerite Marie à la Coque à Paray-le-Monial. Mais en fait, il y a toute une tradition de cette dévotion.
Et oui, au fond, la dévotion au Sacré-Cœur, elle démarre avec Saint Jean qui contemple le cœur de Jésus transpercé, il voit jaillir le sang et l'eau, et à la suite de Saint Jean, tous ceux qui ont médité les évangiles, et ils sont nombreux, et le pape en cite une kyrielle de saints et de saintes, les personnes ont vu dans ce jaillissement d'eau vive, à la fois quelque chose qui était annoncé dans le livre d'Isaïe, par exemple, dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut, hein, vous puiserez l'eau vive aux sources du salut, le cœur est la source qui nous sauve, et cette eau et ce sang qui jaillissent du cœur sont une image des sacrements de l'Église, l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie. Et donc la dévotion au Sacré-Cœur, et même le mot cœur, alors pas forcément le mot Sacré-Cœur, hein, mais le cœur du Christ est médité par tant et tant de saints et de saintes dans l'histoire.
Alors le pape François dit, la source ouverte, c'est le côté blessé de Jésus-Christ. Et arrêtons-nous, si vous voulez bien, sur cette blessure, une blessure qui est toujours ouverte, dit le pape François. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors le pape François a des mots d'une puissance, et on a envie de lire et de relire, je crois que c'est autour des numéros 150 ou de cette encyclique, où il nous dit qu'au fond, c'est intéressant parce que il nous dit que ça suscite en nous une envie de consoler le cœur de Jésus. C'est-à-dire, on pourrait croire qu'en tant que pape, il va nous dire, écoutez, laissez-vous consoler par le Christ, ce qui est une évidence, hein, il nous le dit aussi, mais là, on voit toujours son expérience humaine, son expérience d'écouter les gens. Il voit que chez les personnes qui contemplent le cœur blessé, transpercé, la couronne d'épines, vous savez, toutes ces images du Christ qui nous plaisent ou nous plaisent pas, hein, forcément.
Oui, hein, qui peuvent être doloristes aussi.
Chacun ses goûts, et puis il peut y avoir du dolorisme. Mais ça suscite une envie, notamment chez les femmes, mais pas seulement. Chez les hommes aussi, mais une envie de consoler le cœur de Jésus. Et alors, le pape pose la question, mais Jésus, il est vivant, ressuscité au ciel, en quoi aurait-il besoin d'être consolé? Et il y répond en disant, mais n'ayez pas une notion du temps. Au fond, il a un côté einsteinien, notre pape. Hein, le temps est très relatif. Et en fait, ce cœur du Christ reste, comme vous venez de le dire, il reste blessé, il reste ouvert. Et c'est assez intéressant de voir que ceux qui ont étudié le Saint-Suaire, hein, aucune obligation bien sûr de croire au Saint-Suaire, mais ceux qui ont étudié le Saint-Suaire nous disent, et au fond c'est ce qui est arrivé pour Jésus, de toute façon quel que soit le Saint-Suaire, qu'une blessure qui est faite après la mort, ce qui est le cas, l'Évangile nous dit que la blessure a été faite après la mort, une blessure qui est faite avant la mort, se referme. Une blessure qui est faite après la mort reste ouverte.
Elle ne cicatrise pas.
Donc ça, c'est l'Évangile. Et il se trouve que le Saint-Suaire l'illustre bien, la blessure est restée ouverte après la mort. Et en tant que croyant, eh bien, et à la suite de nombreux saints, on voit qu'effectivement, cette blessure du Seigneur reste ouverte. La preuve, c'est que quand il apparaît à saint Thomas, une semaine après Pâques, il lui dit « Mets ta main dans mon côté ». Pour mettre une main, il faut qu'il y ait une sacrée blessure. C'était la taille la grande taille de la lance du légionnaire, je crois, d'après les spécialistes. Donc, ça, c'est physique. Mais au fond, cette dévotion est très physique. François, sens que tu as envie de parler.
Oui,
il brûle.
Consolation.
C'est pas ça. Moi je cherche toujours le côté pratique des choses, mais pratique pour aujourd'hui. Et j'ai lu dans cette encyclique une citation de Sainte Catherine de Sienne, auquel, dans les dialogues, le Christ parlait. Les dialogues, c'était un recensement de tout ça. Et le Christ lui disait « J'ai voulu que vous voyiez le secret de mon cœur en vous le montrant ouvert, afin que vous voyiez que je vous aimais plus que ne pouvait le montrer la souffrance finie. » La souffrance du même.
La souffrance infinie.
Ça, c'est quelque chose qui m'a... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu a besoin de nous. Si quelqu'un a besoin de quelqu'un d'autre, que ce soit Dieu ou un autre, c'est parce qu'il y a déjà une relation entre eux. Il y a une relation de là de père à fils, ou de frère à frère, comme disait le Christ. Donc s'il y a ça, ça veut dire que je suis quelque chose. Je ne suis pas rien, je suis quelqu'un pour lui. Vous voyez ? Non seulement donc il est capable de me consoler, mais en plus il me demande si je veux bien le consoler. Ça, on peut le tourner dans tous les sens, mais c'est quand même assez extraordinaire. Alors évidemment, on peut donner tous les arguments rationnels que l'on veut à ça. Mais est-ce que dans notre cœur, on ne l'espère pas, même si on ne croit pas ? Mais bien sûr qu'on l'espère. Sinon, la foi ne serait pas possible pour tout le monde.
Oui, consoler pour être consolé pour consoler.
De vous corriger, Isabelle, avec tout le respect. Parce que vous avez voulu vous-même corriger... une citation de Sainte Catherine qui parle, où Jésus parle de la souffrance finie. Vous avez dit, mais non, infinie, parce que vous avez dit la souffrance du Seigneur est infinie. Non. En fait, non, justement. Jésus veut dire que sa souffrance sur la croix, elle est finie au sens où elle est limitée à un temps, à un espace. Et heureusement, elle s'est arrêtée à la mort. Et ça, c'est quand même une consolation pour beaucoup de gens, de penser que ceux qui sont morts ont cessé de souffrir, au moins la souffrance physique. Ils ne peuvent pas souffrir d'autres souffrances au purgatoire. Mais bref. Et donc, Jésus, à Catherine de Sienne, comme à Sainte Gertrude de Hefta, il montre que sa souffrance a été limitée sur la terre, même si elle était d'une intensité inimaginable. Mais ce qu'il nous montre à travers sa souffrance, et notamment son cœur, nous dévoile à la fois une souffrance infinie, par exemple une souffrance qui, d'une certaine manière, continue aujourd'hui, parce que tant qu'il y a un homme qui est victime d'injustice sur la terre, Jésus n'est pas en train de faire la fête au ciel, il n'est pas en train de régaler ses invités, Jésus est tout tourné vers nous, donc le cœur de Jésus reste ouvert à la souffrance des hommes d'aujourd'hui. En ce sens-là, elle est jusqu'à la fin des temps.
Oui, c'est ça. Et puis le pape François explique quand même assez longtemps la notion de réparation. Une réparation qu'on peut offrir au cœur du Christ. Comment peut-on comprendre ce terme ?
C'est ça qui fait l'humanité du Christ. C'est parce qu'il nous demande de réparer, de l'aider à être aimé, en fait. Et en nous demandant ça, il nous ramène à cette notion fraternelle dont lui-même a dit qu'il en était un élément. Il a dit que nous étions ses frères. Bon. Alors, ça veut dire que si nous sommes capables de réparer, c'est que nous sommes capables d'être aimés assez de Dieu pour pouvoir faire quelque chose qui lui fasse du bien. Et là, on touche la grande souffrance du monde actuel. C'est réparer signifie pardonner aussi, parfait don, pardonner. Et si on n'est pas capable de pardonner, eh bien, on n'est pas capable de réparer. Souvent, on se demande même si des blessures n'ont pas été faites pour que la joie du pardon puisse exister. Souvent, je me suis posé cette question-là.
Heureuse faute qui nous a valu un tel rendez-vous.
C'est absolument magnifique, absolument incompréhensible. On est bien d'accord. Mais dans nos cœurs, nous l'éprouvons, ça. On éprouve la joie de pardonner ou d'être pardonné, d'où la confession, vous voyez. C'était quelque chose de très magnifique, mais si peu, si tellement mystérieux qu'on est obligé de se taire, comme le signifie le mot mystérieux, un muet se taire.
Et quand tu parles du pardon, François, le pape insiste beaucoup sur la demande de pardon,
oui,
et la réparation. Donc, au regard de la justice, parce que quelquefois, il faut le reconnaître, les histoires d'abus sexuels, par exemple, ou toutes sortes d'abus de pouvoir, hein, qui ont pu exister au sein même de l'Église et puis ailleurs, on a voulu, par exemple, particulièrement dans l'Église, on a voulu éviter au fond la réparation en invitant les victimes à pardonner. Mais on a oublié qu'on allait pouvoir guérir le cœur des victimes d'abord par la demande de pardon des coupables. Mmh. Et quand on a escamoté, quand on a soustrait les coupables à cette rencontre, on pourrait dire cœur à cœur avec la victime, on a manqué un devoir de justice et un devoir de réparation. Hein. Et il fait tout un éloge de la demande de pardon qui, au fond, fait du bien déjà aux coupables.
Bien
le
sûr.
Fait de demander pardon réhumanise le coupable. Dans notre communauté de l'Emmanuel, et ailleurs, hein, je veux dire, on essaye de pratiquer ce qu'on appelle la correction fraternelle, c'est-à-dire parfois de se dire les choses un peu franchement. C'est la tradition monastique.
Hein. Oui, tout à fait.
Battre
oui.
sa coulpe. D'ailleurs, oui. ça vient d'une tradition monastique où on dit devant les autres, on demande pardon devant les autres de ce qu'on a fait de mal et qui blesse la communauté, qui blesse le tissu social de la communauté. Et bien, quand je demande pardon, je redeviens humain et je restaure ma relation aux autres et je console aussi le cœur de l'autre. Et j'aide en dernier ressort. Hein, l'autre peut-être à me pardonner. Ça prendra peut-être plus de temps.
Oui, et c'est vrai que le pape François, justement sur cette consolation, nous invite à chercher à approfondir la dimension communautaire, vous en parliez François, François de Saint-Blanca, communautaire, sociale et missionnaire. Et on va peut-être terminer justement par cette dimension missionnaire de notre amour pour le cœur du Christ. Le Saint-Père conclut cette encyclique sur ce sujet.
Le côté missionnaire, il nous est donné par cette diffusion du Sacré-Cœur dans le monde entier, cette dévotion déjà.
C'est fulgurant. Hein.
Et puis, si vous voulez, ce besoin irrépressible que nous avons tous d'être missionnaires à partir du moment où nous croyons en Dieu. C'est-à-dire que ce soit au bout du monde, ou que ce soit par le sourire que nous faisons à nos enfants ou à nos voisins, imaginez des journées dans lesquelles, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, automatiquement vous le souriez. Essayez de le faire, vous verrez, ce n'est pas si facile que ça. Rien que ça, c'est de la mission. Le fait d'accueillir une personne, qui peut dire qu'il est chrétien sans quelqu'un l'ait accueilli ? Personne. Le fait d'accueillir, le fait de sourire à une personne, c'est Sainte Thérèse de Calcutta qui disait « Vous, mes sœurs, vous n'avez une seule chose à faire, alors qu'elles se donnaient tellement de mal pour leurs malades, prier et sourire. » Prier. Et je crois qu'elle disait même « sourire et prier ». Donc c'est la base, accueillir l'autre. Nous nous sentons tous tellement mal aimés qu'on a besoin d'être accueillis. Et c'est ça l'Évangile, on commence par s'accueillir et s'assourire. Et après on va plus loin si on veut.
Mmh. Et pour répondre à votre question sur la dimension missionnaire, je souligne que le pape prend beaucoup de temps au début de l'Évangile pour expliquer comment le mot « cœur » au fond, dans toutes les civilisations, symbolise la personne. C'est-à-dire qu'à travers le mot « cœur », à travers les expressions qui parlent du cœur, quelles que soient les langues, les civilisations, les cultures, les religions, il y a l'idée de la relation d'une personne à une autre, et que le mot « cœur » signifie à la fois le physique et le spirituel, la tendresse, la justice, la vérité, la mémoire, enfin, beaucoup, beaucoup de choses sont symbolisées. Et du coup, le langage du Sacré-Cœur permet de s'adresser, au fond, aux personnes dans des substrats culturels très, très différents. Hein. Et quelqu'un qui avait étudié le Sacré-Cœur, je crois que c'était un jésuite, après le monial, le père Glotin, il avait vu que ce n'était pas forcément le cœur, le muscle, qui était toujours qui était présent dans toutes les cultures, mais l'idée du centre de la personne, on pourrait dire le tronc, c'est-à-dire à la fois le cœur et le ventre. voyez, le ventre, le côté entrailles, le fruit de ses entrailles, entrailles de miséricorde, le côté maternel, hein, le ventre qui se tend, hein, quand Jésus est ému de compassion, c'est un verbe qui signifie que le ventre de Jésus se durcit, hein, donc entre le cœur et le ventre, au fond, c'est tout ce côté, d'ailleurs, Saint Jean ne dit pas que le cœur de Jésus est transpercé, il voit son côté transpercé. Et donc ce langage du cœur, du côté du centre, au fond, du centre physique de la personne, est propice à parler à toutes les cultures.
Je me suis demandé, en écoutant, en lisant cette encyclique, si le pape n'avait pas voulu aussi rassurer ceux qui ne comprennent rien à rien. C'est-à-dire, vous savez, dans l'Église, nous avons la réputation d'être un peu un télo et de dire des choses qui sont absolument incompréhensibles en utilisant des mots qui sont tellement compliqués que le langage courant ne les comprend pas.
Ouais, il n'y a plus que nous qui les utilisons.
Or, là, il s'agit du cœur. Et là, on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour savoir que notre cœur est ému de compassion.
C'est vrai. Et le pape François, dans cet envoi aux missions à la fin de cette encyclique, dit « Tu dois te laisser envoyer par lui pour remplir une mission dans le monde avec confiance, avec générosité, avec liberté, sans peur, dire aux autres qu'il est bon pour toi de l'avoir rencontré. » Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Pascal Fannier, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, et vous aussi François de Saint-Blanca, de la même communauté. Vous nous avez éclairé aujourd'hui sur l'encyclique du pape François, Dilexit Nos, il nous a aimés, sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Merci.
Merci.
Merci à vous.
Musique.